Vous êtes sur RTL.
Il est 8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, une bonne nouvelle pour les hôteliers et les restaurateurs.
Une éclaircie enfin pour le secteur du tourisme touché de plein fouet par la crise du coronavirus. Ces hôteliers et restaurateurs situés dans les zones vertes devraient pouvoir rouvrir le 2 juin, dans un peu plus de deux semaines. Donc, annonce faite ce matin sur RTL par le président du Puy du Fou, Nicolas Devilliers.
Hier soir, des représentants du gouvernement qui seront au comité interministériel d'aujourd'hui m'ont dit dans la coulisse que le 2 juin prochain, dans les zones vertes, eh bien, les restaurants pourront rouvrir. C'est une excellente nouvelle pour la France.
Nicolas Devilliers, le président du Puy du Fou sur RTL. Bonjour Martial You.
Bonjour.
Alors c'est évidemment une décision, une annonce que cette filière attend avec beaucoup, beaucoup d'impatience.
Oui, bien sûr, puisque bars et restaurants, ce sont 200 000 établissements en tout en France. Le secteur fait travailler 1 million de personnes et puis surtout 300 000 saisonniers pendant l'été. 300 000 saisonniers qui n'ont aucune visibilité pour l'instant. Alors, on me confirme du côté des syndicats professionnels que l'idée du gouvernement, c'est bien de rouvrir les bars et restaurants des départements verts le 2 juin. Mais c'est important parce que les départements verts, ce sont tous ceux de la façade atlantique et d'une partie autour de la Méditerranée. Donc, les lieux touristiques, évidemment. Il reste encore un problème à régler pour les restaurateurs, c'est le protocole sanitaire, parce que le gouvernement veut leur imposer un périmètre de 4 mètres carrés entre chaque client. Donc ça veut dire très peu de gens dans les salles et ça complique évidemment la rentabilité de ces établissements.
Merci beaucoup Martial You. Le secteur du tourisme emploie 4 millions de personnes en France, directement ou indirectement. Le gouvernement doit annoncer de nouvelles mesures ce matin. Pour l'instant, les hôteliers, les restaurateurs, sous perfusion des aides de l'État, résistent. Mais pour combien de temps encore? Les tribunaux de commerce attendent un tsunami de faillites, comme chez vous à Marseille, Hugo Hamelin.
Oui, car pour le moment, ces restaurants, ces hôtels, ces agences de voyage tiennent debout grâce au chômage partiel, aux prêts garantis par l'État. Jean-Marc Latreille, président du tribunal de commerce de Marseille.
Ces loyers qui ont été repoussés, ces crédits qui ont été accordés, il faudra bien à un certain moment les rembourser. Et c'est là que les vrais problèmes, les vraies questions vont se poser. On s'accorde en général tous à estimer ce mur de défaillance vers la rentrée du mois de septembre.
Un mur de défaillance synonyme de dépôt de bilan pour les sociétés les plus fragiles. Philippe Corquet est le président de l'Union pour les entreprises dans le département.
Et maintenant, nous allons être confrontés à la dure réalité de la reprise, avec une baisse de l'économie sur nos chiffres d'affaires très importants. On parle de plus de 50-60% de chiffre d'affaires en moins. Donc moi, je m'attends effectivement à un tsunami au niveau de mise en dépôt de bilan, des conciliations, des sauvegardes dans les différents tribunaux de commerce du département.
Un déconfinement amer pour certains. Dans la région, ce sont 20% des restaurants qui pourraient mettre la clé sous la porte d'ici la fin de l'été.
Hugo Hamelin, Marseille. Le chômage baisse, mais c'est une baisse en trompe-l'œil. L'INSEE vient de publier ses chiffres pour le premier trimestre. Le chômage baisse de 0,3%. Trompe-l'œil, c'est l'Institut National de la Statistique qui le dit, car il ne tient compte que des deux premières semaines du confinement. Il faudra donc attendre plusieurs semaines avant de mesurer les effets de la crise.
RTL 8h03, direction la Seine-Saint-Denis maintenant et le parc de la Courneuve qui vient de rouvrir ce matin.
Le département en pleine zone rouge a pu obtenir une dérogation. Cette réouverture doit servir de test. Morad Jabari, vous êtes sur place.
Alors, Morad Jabari, vous êtes avec nous ?
1, 2, 3, 1, 2, 3.
Ah oui, 1, 2, 3, ce sont des tests. Donc on va normalement trouver Morad dans un petit instant.
On retrouvera peut-être
oui.
Morad Jabari.
On va laisser s'installer, c'est bien ça ?
Voilà, tout à l'heure. Il va falloir apprendre à vivre avec le coronavirus.
Oui.
Vous connaissez cette phrase répétée plusieurs fois par Édouard Philippe. Alors, vivre avec, oui, mais pour combien de temps ? Pour toujours, à en croire l'OMS, qui affirme que ce virus pourrait ne jamais disparaître. La phrase est de Michael Ryan, le directeur des questions d'urgence sanitaire à l'Organisation mondiale de la santé. On apprend également ce matin l'existence d'une étude qui montrerait que le virus se transmet également par la parole. Vous êtes avec nous, Sophie Orange, bonjour.
Bonjour à tous.
Il n'y a donc pas que la toux, l'éternuement qui seraient des vecteurs de contagion. Quand on parle, les gouttelettes restent en suspension pendant plusieurs minutes. Comment les chercheurs sont-ils arrivés à cette conclusion ?
Eh bien, ils ont mis un cobaye humain, si j'ose dire, un adulte, dans une grande boîte fermée en lui demandant de répéter « portez-vous bien » pendant 25 secondes. On imagine la scène « portez-vous bien, portez-vous bien, portez-vous bien ». Eh bien, chaque gouttelette qui était projetée traversait un rayon laser. Les scientifiques ont donc pu les compter et surtout observer leur mouvement. Résultat, en parlant fort, 1000 gouttelettes contaminées peuvent rester en suspension dans l'air pendant au moins 8 minutes. On ne les voit pas, elles sont invisibles à l'œil nu. plus elles sont fines, petites, légères, plus elles restent dans l'air sans retomber sur le sol ou une table. Et comme elles contiennent des particules contaminées, on imagine leur pouvoir de transmission si plusieurs personnes parlent dans la même pièce. Des conclusions que l'on connaissait pour d'autres virus très contagieux comme la rougeole et qui confirment ce qu'on imaginait empiriquement pour le coronavirus. Un malade qui parle pourrait donc contaminer son voisin et celui qui entre dans la même pièce quelques minutes plus tard, pas seulement en toussant et en éternuant. Des conclusions qui confirment l'intérêt du port du masque, à condition de ne pas le mettre dans le cou et de se laver les mains avant et après.
Merci pour toutes ces précisions. Sophie Orange, on a retrouvé Morad Jabari qui est en Seine-Saint-Denis. Bonjour Morad.
Bonjour.
Vous êtes donc dans ce parc de la Courneuve qui a obtenu une dérogation qui va pouvoir rouvrir ce matin en pleine zone rouge.
Oui, les premiers promeneurs, joggeurs sont arrivés il y a quelques minutes. Très peu, hein, les pancartes fermées pour cause de crise sanitaire sont encore accrochées. Amel est la première à inaugurer en tenue de sport la rouverture de ce parc.
Ah oui, je suis ravie en fait que le parc rouvre. J'espère que ça débouchera sur quelque chose de définitif parce qu'on en a vraiment besoin. Je pense que le 93 est quand même pas mal impacté. Vraiment, c'est une bonne nouvelle. C'est un endroit pour s'évader. Jusqu'à présent, on est resté cloîtré dans nos appartements. Je pense que là, on va toucher à de la nouveauté.
La rouverture de ce poumon vert de Seine-Saint-Denis du 93, plus de 300 hectares de verdure est un test. Plusieurs règles à respecter. Pas de pique-nique, de barbecue, impossible de se regrouper ou même de s'asseoir dans l'herbe sous peine d'une nouvelle fermeture. Mais pour beaucoup, c'est un soulagement.
Depuis que la distance d'un kilomètre est devenue obsolète, j'étais venue jusque-là voir à travers les grilles. Et là, j'ai hâte d'aller retrouver mes petits lapins et les oiseaux et l'herbe et les arbres. Voilà. Je pense que la très très grande majorité va respecter les distances. Il y a moyen de trouver sa place sans se bousculer, quoi.
Alors, le masque n'est pas obligatoire, mais très recommandé par la préfecture.
Merci Morad Jabari, en direct donc du parc de la Courneuve, une exception hein, en pleine zone rouge, et on ne parle pas de la couleur politique. Le gouvernement juge pour l'instant inopportune l'ouverture des parcs et jardins en Île-de-France. À quand un vaccin contre le coronavirus? Le laboratoire français Sanofi travaille dessus, mais les Américains seront les premiers servis, affirme le patron britannique du groupe, qui rappelle que les États-Unis ont été les premiers à financer le programme de recherche dès le mois de février. Inacceptable, dit ce matin la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. Mais le président de Sanofi France, Olivier Bogilot, que vient de joindre Laura Mauchi, tempère.
Je vais vous rassurer tout de suite et je voudrais rassurer tous les Français. Il est évident que si Sanofi découvre un vaccin efficace contre le Covid-19, il sera accessible à l'ensemble des citoyens français. Il est de notre responsabilité, si on a un vaccin efficace, de le distribuer très largement. Les Américains sont très mobilisés. Nous appelons de nos voeux que l'Europe s'organise de la même manière pour pouvoir aller très vite aussi. Si les choses se déroulent bien, il n'y a aucune raison que les patients américains aient accès plus vite que les patients européens au vaccin.
Le président de Sanofi France, Olivier Bogilot, avec Laura Mauchi.
Et nous ferons un point sur tous les traitements, en particulier la fameuse enquête européenne Discovery avec le professeur Bruno Lina à 8h20.
L'un des moyens les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, on le sait aujourd'hui, c'est le masque. Les élus sont nombreux à les distribuer gratuitement depuis le début du déconfinement. Ça fait plaisir, mais ce n'est pas forcément dénué d'arrière-pensée politique. Alors que le second tour des municipales n'a toujours pas eu lieu et que certains présidents de région nourrissent des ambitions pour 2022, Marie Mollet.
Oui, dans toutes les grandes villes, on ne compte plus les annonces, les communiqués de presse, les chiffres astronomiques et des délais pas toujours tenus. À Paris, Anne Hidalgo, toujours candidate, a promis des millions de masques arrivés avec plusieurs semaines de retard. À Pau, François Bayrou, pas encore réélu, a glissé un petit mot signé de sa main avec chaque masque distribué gratuitement. Partout, une surenchère électorale tranche un maire de droite qui risque de virer à la gabegie, dit-il, si tous les échelons commandent à tout va. Car les présidents de région ont aussi mis le paquet sur la distribution et la communication. Valérie Pécresse se met en scène sur le terrain pour en donner en main propre aux franciliens quand Laurent Wauquiez fait apparaître le logo de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur l'étiquette de ses masques. Grotesque, ricane un conseiller ministériel, Pécresse, Bertrand, Wauquiez, dit-il, tous ont la présidentielle en ligne de mire. Réponse d'un proche de président de région. Si l'État avait fait son boulot, on n'aurait même pas eu à en commander.
Marie Mollet, un gardien d'école des Ulis en Essonne est en prison depuis hier soir. L'homme de 46 ans était condamné à un an ferme avec mandat de dépôt. Il a été jugé en comparution immédiate pour avoir attaqué à la hachette, mais sans blesser un policier intervenu dans la nuit de lundi à mardi alors qu'il fêtait dans l'école le déconfinement avec des amis. Ils étaient tous ivres. La lame est passée à quelques centimètres de la tête du policier. Et puis alors que les expulsions locatives sont toujours suspendues en raison de la crise, c'est question à Biarritz après l'expulsion d'une femme de 83 ans. Bonjour Philippe de Maria.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
En rentrant chez elle, elle a eu la désagréable surprise de retrouver toutes ses affaires sur le palier.
Oui, elle s'appelle France, nous apprend le journal Sud-Ouest ce matin. Elle habite un meublé, elle part lundi, premier jour de déconfinement, je vous le rappelle, faire quelques courses sous la pluie, accessoirement. Quand elle revient, ses quelques effets personnels ont été réunis devant son logement. Mieux que ça, la serrure a été changée. Les autorités sont bien entendu alertées selon l'avocate de la vieille dame qui s'exprime toujours dans le journal Sud-Ouest. Même si sa cliente a des retards de loyer, son propriétaire est dans l'illégalité la plus totale. Non seulement il agit alors qu'aucune décision judiciaire d'expulsion n'a été prise, et surtout la période de trêve estivale a été prolongée, de trêve hivernale plutôt, a été prolongée jusqu'en juillet prochain en raison de la crise sanitaire. France a été relogée chez les amis et son avocate a engagé un recours en référé contre le propriétaire.
Merci beaucoup Philippe de Maria.
Et on termine ce journal par une remise de laurier.
Avec vous Bernard Lehu, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes là pour nous dévoiler le nom du lauréat du Grand Prix RTL Lire 2020.
Une lauréate en l'occurrence puisqu'il s'agit de la romancière Sandrine Collette pour son livre Et toujours les forêts, publié chez Lattès. Les 100 lecteurs du jury ont été remués et bouleversés par ce roman puissant qui met en scène le survivant d'un mystérieux fléau qui a frappé la Terre. Une histoire qui résonne étrangement avec notre monde. Grand Prix RTL Lire 2020 donc, Et toujours les forêts de Sandrine Collette. On n'est pas peu fiers.
Ça se termine bien l'histoire.
Ah ben ça, vous verrez.
Il a
essayé de vous piéger, il n'y a pas réussi.
Oh bah oui, enfin, écoutez, c'est n'importe quoi.
Facile.
Alors, en revanche, Sandrine Collette sera l'invitée à ne...